RFI, les 6h à Paris, 8h30 à Téhéran. Et tout de suite, c'est le journal. Bonjour Gaëtan Plenet.
Bonjour Adrien, bonjour à tous.
Nous sommes le 28 janvier, un mois de contestation en Iran.
Un mois d'embûches pour recueillir des témoignages. Vous en entendrez un dans ce journal, un habitant de Téhéran qui raconte l'horreur de la répression. Dans ce journal, on s'intéressera aux méthodes de recrutement de l'ICE, la police fédérale de l'immigration, très décriée après la mort de deux manifestants américains ces dernières semaines. On sera aussi à Raqqa, en Syrie, auprès des habitants kurdes qui s'inquiètent pour leurs proches, coincés dans les combats entre l'armée et les forces démocratiques syriennes dans le nord du pays. On reviendra ensuite sur cette peine prononcée en France hier. 4 ans de prison, dont 18 mois ferme pour un ex-sénateur accusé d'avoir drogué une députée dans le but d'abuser d'elle. Il a fait appel de ce jugement. Et puis on terminera avec du cinéma et promis le ciel, une plongée dans les affres de l'immigration illégale en Tunisie.
C'était il y a un mois en Iran, le début d'un mouvement de protestation qui s'est très vite transformé en bain de sang.
Le 28 décembre dernier, les commerçants du bazar de Téhéran protestaient contre l'inflation et le coût de la vie. Et puis les revendications se sont étendues, plus politiques. Au bout de quelques jours, le mouvement a gagné les grandes villes, les universités. Et la répression a frappé, des dizaines de milliers d'interpellations. Au moins 3400 manifestants tués selon l'ONG Iran Human Rights. Mais l'organisation basée en Norvège craint en réalité un bilan dépassant les 25 000 morts. Un bilan compliqué à établir à cause du blackout des communications décrétées par les autorités. Elles ont été rétablies, ces communications, mais en partie seulement. Alors les témoignages sont toujours très difficiles à recueillir. RFI y parvient quand même depuis quelques semaines et c'est à nouveau le cas ce matin. Nicolas Falaise, malgré les obstacles, vous avez pu échanger avec un habitant de Téhéran.
Nous avons d'abord essayé de communiquer avec lui via une application de messagerie. Impossible, sa voix restant inaudible faute d'un réseau suffisant. C'est donc par écrit que cet Iranien nous a répondu. D'abord pour raconter ce qu'il a vu en manifestant le 8 janvier dernier sur un boulevard de Téhéran proche de son domicile. Des coups de feu, des jeunes blessés et des rues pleine de sang, se souvient-il. Depuis, comme tant d'autres Iraniens, il découvre l'ampleur de la répression. Il emploie le terme « massacre » et juge probable un bilan de plusieurs dizaines de milliers de victimes. Il décrit la colère qu'il ressent et qui gronde dans la population, nous dit-il. Colère contre le guide suprême, mais aussi contre des figures de la République islamique jusque-là considérées comme plus modérées. Notre interlocuteur nous confie aussi connaître plusieurs personnes détenues pour avoir manifesté. Un mois après le début du mouvement, son université reste fermée. Les examens ont été annulés. Selon lui, le pouvoir a peur que les étudiants se rassemblent et recommencent à manifester.
Alors, est-ce crédible? Les autorités sont-elles parvenues à véritablement étouffer le mouvement? Ou bien est-ce qu'il peut reprendre de plus belle d'un jour à l'autre, malgré la peur, malgré la répression? On aura l'occasion d'en parler ce matin avec deux invités, Andréane.
Oui, deux invités. À 7h20, Arnaud Pontus s'appellera la députée socialiste Aïda, Hadizadeh, présidente également du groupe d'amitié France-Iran. Et puis à 8h15, Khan Habibian de l'association We Are Iranian Students sera avec nous.
Et les autorités iraniennes veulent négocier, assure Donald Trump, qui annonce quand même qu'une deuxième armada américaine est en route pour l'Iran. Lundi déjà, le porte-avions Abraham Lincoln et son escorte sont arrivés dans le Golfe.
Le président américain qui annonce une petite désescalade dans son pays cette fois.
À Minneapolis, marqué ces dernières semaines par la mort de deux manifestants américains tués par des agents fédéraux lors d'opérations anti-immigration. Face à la colère qui a éclaté, le chef de la police aux frontières, Greg Bovino, est censé quitter la ville avec une partie des 3000 agents fédéraux déployés là-bas depuis plusieurs semaines. Ce n'est pas un retrait, mais un petit changement, assure Donald Trump sur Fox News. Il envoie l'un de ses conseillers, Tom Homan, pour prendre le relais à Minneapolis. Un homme réputé moins agressif dans sa communication, mais défenseur quand même de la politique d'expulsion massive de migrants voulue par le président américain. Une politique menée grâce au déploiement de l'ICE, la police fédérale de l'immigration, et ses agents aux méthodes très décriés, eux qui sont violents, eux qui sont masqués. François-Damien Bourgerie, justement, que sait-on du processus de recrutement et de formation de ces agents de l'ICE ?
L'ICE, c'est une multitude de métiers. Sur son site de recrutement, on trouve des offres pour des postes d'enquêteurs, de comptables, d'infirmiers et même de dentistes. Aucun diplôme minimum requis, pas de limite d'âge non plus. Seule obligation, être citoyen des États-Unis. Les candidats sont ensuite soumis à un examen médical, un test d'aptitude physique, un dépistage de drogue et à une enquête sur leurs antécédents. Du moins, en théorie, car une journaliste du site d'information Slate raconte avoir été recrutée sans avoir répondu à cette enquête. 2017. Quant à la formation standard, elle a été écourtée à 42 jours contre 5 mois initialement. Selon le département de la sécurité intérieure, cet apprentissage se concentre sur les techniques d'arrestation, de défense, la gestion du conflit et des techniques de désescalade, la politique de recours à la force et son utilisation appropriée, ainsi que le maniement des armes à feu. À la clé, une prime pouvant aller jusqu'à 50 000 $. Signe du succès de la campagne de recrutement, les effectifs de l'ICE se sont passés en un an de 10 à 22 000 agents. Une campagne qui, selon plusieurs experts, cible la base MAGA.
Et puis le ministère équatorien des Affaires étrangères affirme qu'un agent de l'ICE a tenté d'entrer dans le consulat du pays à Minneapolis. Il en a été empêché par des fonctionnaires. Les autorités équatoriennes disent avoir adressé une note de protestation à l'ambassade américaine à Quito. Donald Trump encore lui dit avoir eu une excellente conversation avec, ce sont ses mots, le très respecté président syrien Ahmed el-Shara. Tout se passe très bien, affirme son homologue américain, alors même que le cessez-le-feu entre l'armée syrienne et les forces démocratiques syriennes est fortement menacé. Après d'intenses combats ces dernières semaines, les FDS dominés par les Kurdes ont perdu une grande partie du territoire qu'elles contrôlaient jusqu'à présent. C'est le cas notamment à Raqqa, ville à majorité arabe connue pour être l'ancienne capitale autoproclamée de l'organisation État islamique. Les quelques Kurdes de la ville avaient fui au premier jour de l'offensive avant de finalement revenir. Leur inquiétude est aujourd'hui immense pour leurs proches coincés dans le nord du pays. Reportage sur place de notre correspondante en Syrie, Manon Chaplin.
Sur un bout de trottoir, Walid se réchauffe avec sa famille près d'un feu de bois. Ici, il croise ses amis, ses voisins qui lui tombent tour à tour dans les bras. Il est kurde, vient de revenir après avoir précipitamment quitté Raqqa.
On ne savait pas ce qu'il allait se passer pour nous en tant que minorité. Nous avons eu peur de l'inconnu, peur de certaines personnes.
Walid est soulagé, les massacres ont été évités. Il dit désormais faire confiance aux nouvelles autorités.
Jour après jour, la sécurité s'améliore. Il y a même des centres de réconciliation qui ont été créés pour ceux qui ont fait partie des forces démocratiques syriennes. Jusqu'ici, il n'y a pas eu de problème.
Dans la crainte, ses parents avaient fui à Kobané, se retrouvent désormais coincés. La ville est encerclée par l'armée. C'est l'une des dernières localités kurdes tenues par les forces démocratiques syriennes.
Il n'y a plus d'électricité, d'eau, d'internet.
La dernière fois qu'il les a eus au téléphone, c'était il y a 2 jours.
J'ai peur car c'est la guerre, ce sont des bombes qui tombent. Les deux côtés nous ont fait du mal, dans un sens comme dans l'autre. Ce cessez-le-feu va-t-il tenir? Est-ce temporaire? On ne sait pas.
À nouveau, cette guerre nous dépasse, dit-il. Peu importe qui nous gouverne, ce que nous voulons désormais, c'est simplement la paix. Manon Chaplin, à Raqqa, RFI.
Un reportage à retrouver sur RFI.fr. Le dictateur nord-coréen Kim Jong-un annonce que son pays va bientôt dévoiler la prochaine étape de ses plans de dissuasion nucléaire. Ce sera a priori fait lors du congrès du parti au pouvoir prévu en ce début d'année. Le Premier ministre britannique attendu à Pékin, une première depuis 2018, après des relations diplomatiques particulièrement tendues ces dernières années entre son pays et la Chine. Keir Starmer doit rester 3 jours. Si aucun accord n'est à prévoir dans les domaines les plus sensibles en matière de sécurité, on attend par contre des contrats commerciaux.
Et on en reparle dans Aujourd'hui l'économie dans un peu plus d'une heure. RFI 6h08 à Paris, où un ex-sénateur a été condamné hier.
Joël Guerriau, reconnu coupable d'avoir drogué la députée Sandrine Josso fin 2023 dans le but d'abuser d'elle. Il écope de 4 ans de prison, dont 18 mois ferme, ainsi que d'une peine de 5 ans d'inéligibilité. Le délibéré a duré 5 heures hier au tribunal judiciaire de Paris. Vous l'avez suivi pour nous, Laura Martel. Et il y aura un deuxième procès, puisque l'avocat de Joël Guerriau a annoncé faire appel.
Oui, Joël Guerriau est coupable d'avoir mis de l'ecstasy dans le verre de Sandrine Josso ce soir de novembre 2023 à son domicile pour abuser d'elle. Le tribunal a écarté la version d'un acte commis par inadvertance, comme l'a soutenu l'ex-sénateur depuis le début de la procédure et au cours de ses 2 jours d'audience. Les juges ont estimé que non seulement le caractère volontaire de l'administration de drogue à Sandrine Josso était avéré, mais aussi l'intention sexuelle derrière ce geste. Une intention établie par les déclarations constantes de Sandrine Josso, corroborées par plusieurs éléments qui doivent être pris dans leur ensemble, a souligné le président, pointant notamment la dose importante d'ecstasy administrée, 2 fois supérieure à celle d'une prise récréative, ou encore les recherches sur internet de Joël Guerriau concernant l'acquisition de drogue et leurs effets en cas d'interaction sexuelle. Pour expliquer la peine, le président a insisté sur la gravité des faits, qui plus est de la part d'un homme alors sénateur, ainsi que sur les conséquences physiques et psychologiques sur la victime. Sandrine Josso a paru très éprouvée au terme de ce procès. J'ai été cru, a a-t-elle réagi avec émotion « Je suis soulagée ». Un mandat d'arrêt à effet différé a été prononcé contre Joël Guerrillo, mais l'ex-sénateur a déjà annoncé faire appel, ce qui suspend sa peine. Il n'ira donc pas en prison.
Et il y aura donc un nouveau procès avec peut-être une peine différente. C'est ce qui s'est passé aux Pays-Bas, puisqu'hier, le tribunal d'Amsterdam est revenu sur le statut des chauffeurs de la plateforme de service Uber. Sophia Damasian.
Le changement de statut n'aura duré que 5 ans. Le tribunal d'Amsterdam vient de déclarer lors d'un procès en appel que les chauffeurs de la plateforme Uber sont bien des travailleurs indépendants. Les raisons, leur liberté de choisir des horaires de travail et la capacité à accepter et refuser une course. L'entreprise américaine se félicite de cette victoire pour l'ensemble des chauffeurs qui ont dit leur attachement à ce statut d'auto-entrepreneur. Le tribunal a rejeté l'ensemble des arguments portés par la Confédération syndicale des Pays-Bas, la FNV, qui revendique le droit des chauffeurs de bénéficier des avantages conformes au statut d'employé, comme le versement d'un salaire en accord avec la convention collective des taxis. Le tribunal néerlandais est donc revenu sur sa décision de septembre 2021. Entre-temps, le géant américain a perdu une affaire similaire au Royaume-Uni la même année, puis en France, 2 ans plus tard, le contraignant a versé 17 millions d'euros en dommages et intérêts. La bataille n'est sûrement pas terminée. Les syndicats se réservent le droit d'engager une nouvelle action en justice.
La précision de Sofiane Amazian.
Et puis c'est un sujet lourd traité sur grand écran et ça sort aujourd'hui en France.
Et vendredi en Tunisie, en Côte d'Ivoire, Promis le ciel de la réalisatrice franco-tunisienne Erich Seiri. Un film pour évoquer le sort des migrants subsahariens, ou plutôt migrantes ici, qui vivent clandestinement en Tunisie et qui font face aussi au racisme, Sophie Torlotin.
Tu es au bon endroit.
Ancienne journaliste devenue pasteur évangélique, Marie héberge dans son église Nanet et Jolie, une étudiante. Ces trois femmes représentent trois parcours de migration subsaharienne en Tunisie. Pour Aïssa Maïga, l'expérience a dépassé le cadre cinématographique.
On était avec une vraie communauté évangélique qui m'a adoubée. On dit, tu sais, ça ne peut pas être un hasard. Tu as été choisie pour jouer une pasteur, donc pour nous, tu es pasteur Marie. Donc il m'appelait « Maman pasteur ». Donc c'était vraiment proche du cinéma vérité.
La tonton blanc la dit qu'on mange le chat. Toi, tu manges le chat ?
Viens te manger. Oh.
Face à elle, une débutante au cinéma, Déborah Lobé-Nanet, ce film dans lequel elle joue son propre rôle a changé sa vie.
Pendant qu'on devait tourner, moi je devais prendre la Méditerranée. Donc j'ai le pour et j'ai le contre. Je me dis, oh, c'est un film, c'est juste un truc qui passe rapidement à la télé, on ne parle plus. Et quand j'arrive sur les lieux, le bateau que je devais prendre a naufragé. Et j'ai dit, il faut que je rentre rapidement.
Déborah Lobé-Nanet est revenue sur le tournage après le naufrage de l'embarcation qu'elle devait prendre pour traverser la Méditerranée. Elle aimerait désormais faire carrière comme actrice après avoir remporté 3 prix dans des festivals et notamment ceux de Marrakech et de Carthage.
Sophie Torlotin du service culture de RFI.
Et ce sera notre dossier du 7h30 tout à l'heure. Merci Gaëtan Plenet. Et bonjour à vous, bienvenue. RFI commence maintenant notre tour du monde de l'actualité. On a beaucoup à dire en 3 heures. L'Iran déjà en ce 28 janvier, un mois tout pile après le début du récent mouvement de contestation. Aujourd'hui, la colère semble à première vue étouffer le récit du bain de sang, se précise, et les menaces américaines se font toujours plus fortes de tout ça. On va en parler très largement ce matin. Dans le grand bazar de Téhéran, les commerces ont rouvert, mais la normalité, elle, n'est pas de retour.
Les clients ne viennent pas parce qu'ils ont peur qu'une guerre survienne à tout moment. J'espère que ce ne sera pas le cas. Ça affecte directement notre commerce. Nous sommes grossistes et les petits commerçants ne risquent pas d'acheter dans cette situation parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer.
Reportage à écouter en intégralité à 8h. Bonjour Arnaud Pontus.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
L'Iran, un mois après, vous en parlez ce matin avec votre invitée, la députée socialiste Aïda Hadizadeh. Elle est aussi présidente du groupe d'amitié France-Iran à l'Assemblée nationale.
Oui, elle est née à Téhéran, mais a grandi en France. Sa mère était bibliothécaire en Iran, opposée à la dictature du Shah, puis à celle des Mollahs. Elle a donc fui le pays. Aujourd'hui, Aïda Hadizadeh observe et s'inquiète des événements dans son pays natal. Selon elle, la révolte du 28 décembre marque une rupture par son ampleur, sa radicalité et l'espoir qu'elle suscite. Elle appelle à soutenir les forces démocratiques iraniennes en allant au bout des sanctions contre les responsables du régime. Et à l'heure où la menace militaire américaine se fait plus pressante, elle s'oppose à l'idée de frappes extérieures. Elle nous explique pourquoi tout à l'heure.
Et puis, autre invité sur sur le même sujet à 8h15. Kian Habibian, cofondateur de l'association We Are Iranian Students, avec notre grand invité Afrique ce matin, la béninoise Marie-Cécile Zinsou. On va parler de ce projet de loi cadre qui doit être examiné aujourd'hui par le Sénat français, loi destinée à faciliter la restitution de biens acquis par la France de manière illicite, souvent durant la période coloniale. Rendez-vous dans une demi-heure pour cet entretien.
pas haut et on n'en voit pas le bout de nos peines. C'est à s'en arracher les cheveux et les boucles d'oreilles. J'ai beau recoller les morceaux au néoprène, c'est toujours vers l'entrée que la porte de sortie nous entraîne. J'ai l'impression d'avoir passé ma vie dans les bouchons. On croisera nos rêves mais jamais nous ne les toucherons. Pourtant quand on bâtit les premières fondations, on se voit déjà couper le ruban lors de l'inauguration. Mais les bâtons ont eu raison des routes qu'on scoute. Et quand on se casse la gueule, a-t-on toujours un point de chute? J'en doute, je suis à l'âge adulte et je vis encore pleinement ma vie sur un cheval à battre.
Je me réveille chaque fois que je rêve que l'écart diminue dans un profond sommeil. Je me lève, je tiens en retard de 10 minutes à voir la flemme de faire. Aujourd'hui est une affaire qui dure pour les centres parenthèses. Un jour nous pète en pleine figure, au lieu de faire ça sur le tas. Quand y'a du taf, tu calcules pas. Et dictat du time, remets ça à plus tard. Ça jusqu'à la date butoir. Mais rassure-toi, quand ma plume doit lâcher une phrase, elle rattrape du retard, t'as cru quoi? Moi aussi j'ai chopé le syndrome. Si je trouve ça utile, je peux aller plus vite ou bien mettre plein de pots. Je veux que ma couleur soit unique avec un seul pinceau. Je fais de la musique en jonglant sur plusieurs tableaux. T'es trop prêt, t'es sous, je t'en prie, garde la monnaie. On peut pas donner des news plus tant qu'on rappe à nos frais. Même si sur Facebook on a pas 30 milliards d'abonnés, c'est nos blesses cool pour nous, le son c'est de la pâte à modeler.
Dieu sait que c'est difficile d'avoir des échéances quand les circuits du temps viennent me briser les hanches. Fruit de mes mauvaises semences, j'ai dû couper les branches, regretter les bons moments, quitte à ramasser les tranches. En retard toute ma vie en retard. Malheureusement le rencard est déjà prévu sur les brancards. L'heure, la date sont fixées pour l'arrivée, pour le départ. Comment construire mes phrases avant que les points ne s'en emparent. Tous on prend part au grand agenda. Les jours roses, noirs, pourpres, magenta. Tout tourner déjà autour de la mort comme à la Jinka. Avant que je ne passe un bras hors du placenta.
Quand je pose un freestyle au mic, t'écartes pas de la scène. Ceux qui style de là vont pisser ou peut-être qui tapent la cesse. Bref, avec ou sans spotlight, je te place un 16. Et souvent un peu borderline, sinon je trouve pas ça sexe. Si ma prestation pas sur place, à quoi ça me sert? Je veux pas marine pistée par des kiss, des disquaires ou des kiss, mais discrets qui seraient munis d'un 3-5-7. Merde que les indics testent, ils m'ont piqué des pistes et cassent la tienne. Mon stylo crispé, garde sa sève. Mais fais gicler de l'encre en part de sa sème. Après avoir giflé des langues qui ne parlent pas zen, souvent giflé son rap et jugé dément. Vu les dégâts que ça sème, trop l'asteg. Quand je vois dans le hip-hop le bazar c'est, je préfère laisser mon pass access et distribuer des patates sèches. Vous pourrez me cuisiner, vous n'aurez pas ma recette. Autant me faire trucider pour un dessin ou même une pâte à sel. Congo Yubari, Trinita, Zeno, Bazou, hey, let's go, let's go, deadline.
Gone, 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 gone. vous avez, comme moi, trituré les boutons de votre transistor, vous avez peut-être pu entendre...
Principe actif.
Et si les autorités savaient où se trouve l'émetteur de cette radio clandestine, elles auraient pu interrompre cette émission.
Principe actif à Évreux, 102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9.